Utopod 035, 24 octobre 2009, L'enfant et l'abîme de Daniel Martinigol. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, Utopod présente une nouvelle de littérature jeunesse, L'enfant et l'abîme de Daniel Martinigol. Ce récit s'adresse aussi bien aux enfants et aux adolescents qu'aux adultes, qui trouveront, j'en suis sûr, un grand plaisir à son écoute. Le texte figure au sommaire de Premier Contact, anthologie parue en 2005 dans la collection Autre Monde de l'éditeur français Mango Jeunesse. Le récit se déroule dans l'univers de la série des Abîmes, dont les trois volumes sont respectivement parus en 2001, 2004 et 2005. L'histoire que vous allez entendre précède dans le temps les aventures narrées dans ces trois romans. Elle décrit l'époque des premiers colons de la planète Outre-mer. Daniel Martinigol est né en 1949 au milieu des vignes de Bourgogne. Auteur jeunesse engagé, elle publie son premier titre en 1989, L'Or Bleu, roman sur la raréfaction de l'eau sur Terre, qui la place d'emblée dans le catalogue des auteurs de SF écolo, ce qu'elle assume parfaitement. Elle a publié plus de 10 romans en solo, toujours illustrés par Manchu, ainsi qu'une trentaine de romans en collaboration avec Alain Grousset, sous divers noms de plumes. Elle a remporté de nombreux prix, dont le GPI 2002 et le prix Chronos 2003, pour son roman Les Abîmes d'Outre-mer. À ce jour, elle réside toujours quelque part au milieu des vignes, où elle poursuit avec bonheur sa carrière d'écrivain. Le lecteur du jour est Vincent David, et non, il ne les a pas vus. Comédien professionnel diplômé du Conservatoire de Lausanne, il a cofondé la compagnie Cabaret en 2003. Pour plus d'infos sur lui, rendez-vous à l'article du jour. Et maintenant, installez-vous dans votre trône de pierre, levez la tête au ciel et place à la littérature.
L'enfant et l'abîme de Daniel Martinigol. Anjo, qu'est-ce que c'est que ça ? Alexine tenait du bout des doigts un récipient transparent dans lequel tournait en rond un poisson étrange à tête d'hippocampe. Anjo ! Une voix répondit de la pièce voisine. Ne te fatigue pas, il n'est pas là. Où est-il ? Où veux-tu qu'il soit ? Dans les rochers comme d'habitude, dans son fauteuil de prince comme il dit. Tu vas voir ce qu'il va prendre tout à l'heure quand je dirai à papa qu'il apporte des bestioles de l'océan dans la zone T. Qu'est-ce que tu as trouvé encore ? La tête blonde et frisée d'Adriel apparut dans l'embrasure de la porte. La jeune fille examina ce que sa jumelle maintenait le plus loin possible à bout de bras.
« Oh, oh ça, dit-elle, c'est un hippovoile.
Ce n'est pas dangereux du tout. Je ne vois pas pourquoi tu fais tout un drame. »« Toi, gronda Alexine, tu es toujours prête à défendre Anjo et ses sales manies de rapporter au module tous les trucs qu'il ramasse. Quand papa le saura,
les trucs en question, comme tu dis, sont des animaux en général plutôt sympas et jolis. » « Regarde celui-là, il est tout mimi avec sa petite tête de cheval miniature et ses grandes nageoires translucides. »«
Il a aussi un dard au bout de la queue, je te signale, et personne ne sait s'il ne libère pas un venin mortel. »
Haussant les épaules, Adriel fit demi-tour et repartit vers les chambres du module. Elle eut un geste fataliste en direction de sa jumelle.
« Tu vois le mal partout. Désormais, nous vivons ici. » Il faudra bien que tu finisses par admettre qu'Outre-mer est maintenant notre monde et que ces animaux ne nous en veulent pas obligatoirement à mort.
Va dire ça, Bélix !
Lança Alexine tout en jetant le récipient transparent et son élégant contenu dans le broyeur domestique. Avec un bruit de succion écœurant, l'appareil réduisit place vert, eau et hippovoile en molécules javelisées.
Elle te montrera les holos de l'issue à l'agonie après avoir été happée par le squalanha.
Adriel soupira en fermant la porte derrière elle. Décidément, sa sœur avait le don d'appuyer là où ça faisait mal. Quelques larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. L'issue. Son tendre l'issue. Le frère de sa meilleure amie, mort 6 mois plus tôt, 1 mois jour pour jour après leur installation sur Outre-mer, victime de l'un des pires prédateurs du monde océan.
Mais fallait-il pour autant refuser toutes les beautés de cette planète ?
Elle jeta un coup d'œil par le hublot du module servant de fenêtre à cette partie de la maison. Le soleil couchant plongeait dans ses propres reflets rosés sur le ressac visible au loin. La zone T, pour terraformer, ne laissait qu'un étroit couloir d'accès jusqu'à la plage, s'enfonçant entre des amas désordonnés de rochers qui défendaient l'accès à l'île Zabé. Cela n'empêchait pas son petit frère de s'y aventurer régulièrement. « Anjo, murmura-t-elle, à mon avis, après le coup de l'hypovoile atomisé, il vaudrait mieux que tu rentres avant la nuit. »
C'était pourtant l'heure que préférait l'enfant. Il avait élu domicile dans un repli de la roche qui lui faisait comme un siège naturel avec assise, dossier et même accoudoir.
Il appelait secrètement cet endroit son fauteuil de prince. Enfin, pas si secrètement que ça, car il en avait parlé à Adrielle, sa sœur préférée, et de loin. Alexine était moins gentille. Elle avait d'emblée pris la place tutélaire de leur mère décédée, mais, au contraire de leur mère, elle était autoritaire. Face à cela, Adrielle protégeait instinctivement son petit frère en l'entourant d'un amour espiègle. Quant à leur père, oh, leur père. Anjo soupira. Le soleil d'outre-mer, qui n'avait pas encore d'autre nom que son matricule stellaire Dupsi Yellow 547 Insignis, avait plongé depuis un moment déjà derrière la ligne d'horizon. Et malgré la certitude de la remontrance, si ce n'est même de la correction qu'il attendait au module, Anjo restait assis dans son fauteuil. Il contemplait le théâtre magique que lui offrait ce nouveau monde. L'air était d'une pureté si tangible, si iodée, si nouvelle, qu'il ne se lassait pas d'inspirer à plein poumon. Ses mains caressait sur ses genoux un bébé fogouin qu'il avait apprivoisé jour après jour lorsqu'il avait compris que l'animal était orphelin. Kilou, ainsi l'avait-il baptisé, émettait un petit bruit de gorge qui n'était pas loin du ronronnement d'un chat. Anjo eut une pensée émue pour l'autre Kilou, le chat qui avait accompagné sa toute petite enfance sur la Terre, à l'autre bout de la galaxie. Sa planète natale était en proie aux guerres de l'eau et à la pollution quand il l'avait quittée, et rien ne semblait pouvoir la sauver de la catastrophe. Se battre pour de l'eau ? Anjo hocha la tête. Dire qu'il y en avait tant ici ! Les eaux d'outre-mer seront l'avenir de la Terre ! Scandaient les slogans colonialistes. Nombreux avaient été ceux qui y avaient cru, et ils étaient partis. S'entassant dans les trains de vaisseaux colonisateurs de la compagnie E-Trans. E comme expansion, comme exploration ou comme évasion.
Plutôt exploitation, grondait souvent Werner Magellan autour de la table familiale.
Devant le repas préparé par Alexine, l'œil narquois d'Adrielle clignait alors en direction d'Anjo.
Parfaitement, s'énervait le père tout seul. Nous devions venir en nombre limité, mais E-Trans n'arrête pas de débarquer les colons qui n'ont plus rien à voir avec les profils exigés. Dire que nous n'avons même pas eu le temps d'explorer l'océan et qu'il y a déjà plus de 1000 zones T.
Anjo se leva, quittant à regret son fauteuil de prince. Il posa délicatement Kilou dans une anfractuosité du rocher où il lui avait aménagé un nid d'algues sèches. Il gratouilla le crâne duveteux du bébé fogouin et lui promit de revenir le lendemain. Alors qu'il jetait un dernier regard sur le large, une distorsion lumineuse apparut dans le ciel, loin vers l'est. Le cœur d'Anjo bondit. Irrésistiblement, il avança de plusieurs pas, comme attiré vers cette étrange source de lumière. Un orage troposphérique. Ainsi son père et ses amis nommaient-ils ce phénomène unique, observé nulle part ailleurs.
« Un phénomène naturel inexpliqué !» disaient les adultes. « On en saura plus un jour !»
Mais Anjo ne pensait pas comme eux. À plusieurs reprises déjà, il avait eu l'occasion de voir cet étrange phénomène et chaque fois, il avait éprouvé la même fascination. Ce n'était pas un banal orage, même d'un genre nouveau. Il en était sûr et certain depuis le premier instant où il en avait vu un. Hélas, pour son plus grand malheur.
Stase imminente ! Hurlaient les haut-parleurs du vaisseau 26.
Marvina Magellan regarda autour d'elle.
Où était Anjo ?
Depuis une demi-heure, le gamin se comportait bizarrement. Était-ce l'effet des stases, ses plongées successives dans l'hyperespace qui le perturbait ? Entre deux stases propulsant la grappe de vaisseaux colonisateurs à des années-lumière, les arrêts étaient de 12 heures environ, le temps que les médics de chaque vaisseau contrôlent l'état physique et surtout mental des 10 000 colons entassés avec enfants et bagages dans les modules. Depuis quelque temps déjà, on savait comment corriger l'effet Beneste qui affectait certains humains lors des plongées dans l'hyperespace. Malgré tout, les médics tenaient à vérifier si tout le monde se portait bien. Le flux de la stase pouvait endommager les cellules cérébrales de certaines personnes. Il fallait absolument que le corps humain ait deux points de contact avec la coque métallique du vaisseau, les mains et les pieds par exemple, ainsi le flux s'écoulait-il sans laisser de séquelles.
Stase imminente, tenez-vous debout, les pieds au sol et accrochez vos mains au poignet mural,
ordonnèrent les haut-parleurs réglés à la puissance maximale.
Kron, où est Anjo ?
Au bout du couloir, Marvina aperçut enfin son fils. Il était debout devant un hublot rectangulaire, le front collé contre le place-vert, les mains serrant les montants métalliques.
« Anjo ! » cria-t-elle tout en courant vers l'enfant. « La stase !»
Il tourna la tête. Sa mère était encore à une dizaine de mètres de lui.
« Regarde, maman ! Là-bas, dehors ! La lumière ! Elle m'appelle !»«
Quoi ?
Mais qu'est-ce que... »
À travers le hublot, au-dessus des cheveux de son fils, Marvina découvrit un tourbillon lumineux, une distorsion étrange gigantesque, comme une spirale iridescente avec en son centre une forme immense au contour indistinct. Jamais Marvina n'avait vu une chose pareille. Un phénomène inconnu ? Le visage d'Anjo tourné vers elle rayonnait d'émerveillement. Tout en avançant, Marvina se dit que quoi que fût cette lumière, elle donnait à son fils un sentiment de bonheur inouï.
« Stase !»
hurla le haut-parleur. Marvina fut instantanément clouée sur place. Les dernières images que perçut la jeune femme furent les mains de son fils, toujours accrochées à la paroi du vaisseau, et les pieds de l'enfant solidement ancrés sur le sol. Des larmes amères n'eurent même pas le temps de monter à ses yeux. En face d'elle, le regard d'Anjo, si radieux une seconde auparavant, se voila soudain de terreur. Immobilisée à quelques mètres de son fils au milieu de la coursive, loin de toute poignée protectrice, Marvina Magellan sentit d'un coup le flux de la stase lui griller le cerveau.
J'ai vu une lumière dans le ciel tout à l'heure.
La voix d'Anjo était encore secouée de petits sanglots.
Tais-toi, je t'ai dit ! Gronda son père.
Mais j'ai vu une lumière.
La gifle vola. Une main puissante arrêta le bras de Werner Magellan.
Laissez-le ! Intercéda Nike. Je crois qu'il a son compte pour ce soir.
Werner lança un regard noir au chef de zone. C'était lui qui aurait dû être le plus sévère avec tous les gamins des modules qui couraient partout dans l'île Zabé, hors zone T. Mais Nike était comme eux finalement, séduit par les lieux, fasciné par les mystères d'autres mers.
« Ça n'apporte que le malheur !» rugit Magellan.
Nul ne répondit, ni les jumelles, ni Nike, venus à l'improviste chez les Magellan. Le chef de zone était tombé en pleine séance de correction. Les motifs annoncés étaient « Introduction d'animaux non identifiés en zone protégée », retard pour l'heure du dîner et virtue école buissonnière pour une partie de l'après-midi. Anjo avait eu beau arguer qu'il avait fini ses exercices avant de quitter le module, son père ne l'avait pas cru. De toute façon, le motif profond, enfoui, refoulé de la haine que Werner semblait éprouver pour son fils, tout le monde le connaissait. Anéanti par la mort de sa femme, il n'avait jamais su pardonner à l'enfant sa passion pour ces phénomènes étranges.
« Il n'y a pas de lumière bizarre !» asséna Werner. « Pas plus ici que dans l'espace !»«
Si !»
rétorqua Anjo. « Maman l'a vu ! Je te dis que maman l'a vu avant de... »
Cette fois, Naïk ne fut pas assez rapide. La main claqua sur la joue d'Anjo, qui recula, les yeux brûlants de fièvre. Le petit garçon lança un regard implorant à ses sœurs. Alexine se tenait bras croisés et le toisait, image même du reproche incarné. Adriel se mordait les lèvres, pâle et impuissante, les poings serrés au fond de ses poches. Lorsqu'Anjo sentit la porte du module s'ouvrir dans son dos, il prit sa décision dans la seconde.
« Je m'en vais !» cria-t-il. « J'irai jusqu'au bout du monde. Je ferai le tour de l'océan s'il le faut, mais je trouverai d'où vient cette lumière !»
Il bouscula Denis et Sabeline, son oncle et sa tante qui entraient, et disparut dans la nuit. Si Naïk et les autres n'avaient pas été présents, Werner aurait couru dehors illico pour ramener son fils par la peau du dos, mais le chef de zone fit barrage.
« Il va revenir, » dit-il. « Où voulez-vous qu'il aille ?»
Pourtant, 2 heures plus tard, tandis que brillaient les feux des nouvelles constellations auxquelles les colons commençaient seulement à s'habituer, Anjo Magellan n'était toujours pas rentré. Ni pendant la nuit, alors que tout le monde battait la zone en l'appelant, ni le lendemain matin lorsque Denis s'aperçut que son bateau avait disparu.
Pour la 20e fois, Anjo se dit qu'il aurait dû prendre au moins de l'eau. Recroquevillé au fond de la grande barque de pêche, il était transi et assoiffé. Il avait tant pleuré, debout à la barre dans la nuit, que ses larmes l'avaient aveuglé et qu'il ne savait même pas dans quelle direction il était parti. Il avait piqué vers le grand large, tout droit pendant plus d'une demi-heure. Quand il avait réagi et s'était retourné pour regarder les côtes de Zabé, il n'avait vu que de l'eau à perte de vue. D'un coup, la panique l'avait saisi. Il avait ralenti le moteur un peu trop brusquement, avait calé et s'était trouvé dans l'incapacité de le remettre en marche. Depuis, il dérivait. Avec frénésie, il avait exploré les moyens du bord, mais l'embarcation de Denis était une simple barque de pêche, juste un moteur sur une longue coque de plastique. Anjo savait piloter car le pêcheur avait emmené son neveu un jour en promenade autour de l'île Zabé.
Elle était si petite, cette île.
Un grain de beauté marron sur l'épiderme bleu de la planète océan. Comme des millions d'autres îlots sur ce monde, ce petit lopin de terre émergé avait été investi par les humains pour s'y installer, provisoirement, car chacun savait que les tempêtes géantes de la planète océan obligeraient tout le monde à se glisser bientôt sous la surface des eaux pour construire les villes futures. Soudain, alors qu'il claquait des dents, les bras repliés autour de la poitrine, Anjo vit très haut dans le ciel la fameuse lumière qui lui valait d'être naufragé volontaire. Instantanément, l'enfant ne sentit plus la fatigue, ni la faim, ni le froid. Il se releva et s'accrocha au rebord de la barque. Le menton plaqué contre le plastique, il dévora des yeux le phénomène. C'était comme un cône brillant qui s'ouvrait pour laisser place à une immense silhouette en son centre. Bouche bée, Anjo vit apparaître une forme oblongue gigantesque qui descendait de l'azur dans sa direction. Dans une gerbe d'écume, la masse d'un blanc argenté se posa sur les crêtes de la houle et s'immobilisa. Anjo se mit sur la pointe des pieds pour mieux examiner ce qui venait de fondre du ciel à 1 kilomètre de lui. Les yeux lui sortaient de la tête. Bientôt, force lui fut de constater que la chose ne restait pas immobile. Imperceptiblement, sans faire de remous autre que les clapotis de la houle, la masse blanche s'approchait de la barque, glissant à la surface d'autres mers en habituées de cet univers liquide. Alors Anjo eut peur. Très peur. Il recula, trébucha contre le banc qui coupait la barque en deux, tomba à la renverse, et c'est ainsi, les fesses baignant dans la saumure, qu'il vit grandir devant lui une paroi frémissante occultant le ciel. La chose se présentait de profil, mais, tournant légèrement vers la droite, elle dévoila à l'enfant une partie claire cerclée dans la chair blanche, une zone translucide qui palpitait. Sans savoir comment, l'enfant comprit que cette chose le regardait. Il comprit aussi qu'il ne courait pas de danger, même si, en avançant de quelques mètres de plus, l'animal...
l'animal ?
N'aurait eu aucun problème pour faire chavirer la frêle embarcation. Malgré tout, le cœur d'Anjo battait à tout rompre. Le jeune garçon se mordait les lèvres et se tordait les mains, surtout lorsqu'il vit s'ouvrir au ras de l'eau un orifice dans la paroi. Ça ressemblait à l'entrée d'un tunnel contre laquelle venait s'écraser le clapotis de la houle. S'approchant de plus en plus, l'immense corps se positionna jusqu'à mettre l'orifice juste en face d'Anjo dans la barque. Qu'est-ce que cela signifiait ? Le trou n'était plus qu'à quelques brasses de lui, mais l'enfant s'accrochait désespérément à l'embarcation, levant des yeux effrayés vers la masse immense de chair argentée qui le dominait. Soudain, il ressentit quelque chose au fond de lui, une sensation étrange, pas comme des mots, mais comme une sorte d'invitation dans son esprit, un appel.
Non ! Non ! Cria le petit garçon en se mettant à trembler.
Il alla se cacher à l'avant de la barque, là où un petit espace en pointe constituait un abri dérisoire. Il aurait voulu fuir à l'autre bout du monde, loin, loin de cette sensation, la même que celle qu'il avait ressentie dans le vaisseau de la grappe E-Trans, la même que celle qu'il avait attirée loin de sa famille, celle qui avait causé la mort de sa mère. Mais l'animal gigantesque ne l'entendait pas de cette façon. Il ne voulait pas que l'enfant fuie. Une langue de chair jaillit de la masse argentée et vint heurter la coque de la barque.
Anjo hurla. L'embarcation tangua une fois, deux fois, et brusquement chavira.
Englouti dans l'eau glacée, Anjo fut pris d'une panique totale. Il battit frénétiquement des pieds et, tirant sur ses bras de toutes ses forces, se propulsa vers la surface. Il émergea entre deux vagues, aspira goulûment l'air iodé, passa une main rapide sur ses yeux pour en chasser les gouttes et jeta un regard autour de lui. La muraille énorme était à portée de main, avec son orifice ouvert dans un tunnel paisiblement éclairé d'une lueur rosée. Jetant des regards désespérés aux alentours, il constata que la barque avait disparu. Une vague plus forte que les autres lui éclaboussa le visage, lui coupant le souffle. Alors, en désespoir de cause, il fit quelques brasses en direction du tunnel de chair. Il s'accrocha au rebord et, dès que ses mains se posèrent sur cette étrange matière élastique, une excroissance se créa sous lui et le souleva, le propulsant à l'intérieur. Il glissa sur le ventre dans le tunnel au milieu d'éclaboussures d'eau salée. Se rétablissant tant bien que mal, il se retrouva assis sur un sol tiède et souple. Une pente douce se créa, expulsant l'eau de mer à l'extérieur et, sous les yeux stupéfaits d'Anjo, comme une paupière qui se ferme, l'orifice disparut. Dans un silence ouaté, le petit garçon comprit qu'il était maintenant enfermé à l'intérieur de la bête. La fatigue avait eu raison d'Anjo. Allongé à même le sol confortable du tunnel de chair, il s'était endormi d'épuisement. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il ne sut combien de temps s'était écoulé. Son corps n'était pas reposé. La faim le taraudait, la soif aussi. Il se mit debout et chercha des repères. Les parois, d'un rose doré, émettaient une étrange lueur qui ne semblait pas devoir s'éteindre. Il ignorait de quel côté était la porte qui s'était refermée derrière lui. À droite comme à gauche, un opercule faisait barrage. Il avança sur sa droite, rien ne se passa jusqu'à ce qu'il touche l'obstacle. Faisant demi-tour, il avança dans l'autre sens. Et là, à sa complète stupéfaction, la paroi disparut et le tunnel se prolongea comme à l'infini en une pente douce montante. Se retournant, il se dit que l'extérieur était donc de ce côté et que devant lui s'ouvrait le chemin vers les profondeurs du corps gigantesque. Il marcha, marcha,
incapable de dire quelle distance il parcourait, jusqu'au moment où il déboucha dans un espace plus large, au centre duquel trônait une masse ronde translucide. Il s'approcha, regarda à travers comme si c'était un mur d'eau, et distingua vaguement l'horizon infini de l'océan d'autres mers. La panique lui griffa le ventre. Où était-il? Allait-il rester prisonnier ainsi au milieu de l'océan? Mourir? Des larmes coulèrent sur ses joues. Il n'eut même pas le réflexe de les essuyer. Elles arrivèrent à ses lèvres. « Maman !» murmura-t-il. Il sanglota de longues minutes. Jamais il n'avait pleuré après avoir assisté à la mort de sa mère. En état de choc, il n'avait prononcé que quelques paroles disant qu'une lumière l'avait appelé et que sa mère n'avait pas eu le temps d'attraper une poignée de stase. Son père ne l'avait plus jamais serré contre lui.
« Tu m'as pris ma maman ?»
continua-t-il. Il grelottait et, tout en pleurant, il retira ses vêtements encore mouillés, espérant qu'ils sécheraient.
« Pourquoi ?
Pourquoi ?»
hurla-t-il soudain en se précipitant, les poings levés pour frapper la masse translucide en face de lui. Contre toute attente, ses poings pénétrèrent de 20 bons centimètres à l'intérieur de la bulle. Il voulut les retirer, en vain. Paniqué, il se sentit soudain attiré à l'intérieur de cette masse transparente. Croyant étouffé, il bloqua sa respiration, mais dut bientôt se résoudre à inspirer. Un air frais envahit ses poumons. Il était comme dans un cocon, câliné de toutes parts. L'étrange matière transparente le serrait de près et, regardant devant lui, il scruta à nouveau l'extérieur. Il se dit qu'il était dans l'œil de la bête. Étonné, il constata que, maintenant, il voyait tout avec une incroyable netteté et là, devant lui, il reconnut la silhouette de l'île Zabé posée sur les eaux turquoises. Lentement, l'animal approchait de la côte. Une flottille était amarrée dans l'anse où débouchait le couloir de la zone T. Sur une hauteur, un conciliabule avait lieu. Des silhouettes humaines étaient en train d'élaborer des plans de recherche pour tenter de retrouver Anjo. Le petit garçon sut que son immense sauveur allait le ramener jusqu'à l'extrême limite de ses possibilités. L'eau était profonde près de la côte abrupte de l'île volcanique, mais l'animal ne pourrait pas s'approcher jusqu'au rocher. Anjo sut qu'il devrait quitter le nid douillet où il avait trouvé refuge pour redescendre vers le tunnel qui s'ouvrait à nouveau pour lui. Au moment où, faisant demi-tour, il allait s'extraire de l'œil de l'animal, pas vraiment un œil, en fait. Un mélange de cerveau et d'œil, plutôt. Anjo se ravisa. Il approcha sa bouche tout près de la paroi et murmura. « Maman doit être contente que nous nous soyons retrouvés. » Un rugissement sourd et profond, comme une sorte de voix grave et vibrante, retentit dans les profondeurs du corps de l'animal. Anjo assimila cette réponse à un acquiescement.
« Je suis heureux, moi aussi, » ajouta-t-il.
Un flot d'amour lui vint en retour. Une sensation étrange de paix, la certitude de ne plus jamais ressentir le terrible sentiment qui lui broyait le cœur depuis des mois. L'animal lui faisait comprendre qu'il ne serait plus jamais seul. Anjo en eut les larmes aux yeux. Il caressa de sa joue la paroi translucide autour de lui. « Merci, » dit-il la gorge nouée. Puis il sortit de la bulle, se rhabilla et courut tout le long du couloir qui s'ouvrait devant lui au fur et à mesure de sa progression.
Werner Magellan était livide. Adriel et Alexine en bottes et cirées avaient arpenté en vain, avec d'autres, les moindres recoins des rochers de Zabé. Naïk et Denis avaient fait 3 fois le tour de l'île par la mer. Des marins étaient partis dans toutes les directions sans succès. L'angoisse du père faisait pitié à tous ceux qui l'entouraient. Un cri de stupeur alerta tout le groupe. Chacun se tourna dans la direction indiquée par un doigt tendu vers le large. L'immense masse immaculée glissant sur les eaux pour venir à eux les figea. Certains reculèrent, mais la plupart médusés ne bougèrent pas. Abasourdis, ils regardaient cette silhouette impressionnante avancer vers la côte. Ils virent des éclairs brillants dans une bulle étrange à l'avant de la masse oblongue, puis la silhouette s'immobilisa et, dans un mouvement fluide et un extraordinaire silence, hormis le clapotis des vagues sur les rochers, elle présenta son flanc droit à la vue des humains réunis sur la côte. Un orifice s'ouvrit, et presque aussitôt, tout au bord, une minuscule silhouette apparut au ras des flots. Levant les deux bras, l'enfant faisait de grands signes.
« Anjo !» s'écria Werner.
Premier à réagir, il dévala la pente et sauta dans le hors-bord le plus proche. Il démarra plein gaz. Creusant un long sillon d'écume, le bateau fila en direction de l'ombre faite par la forme gigantesque. Coupant le moteur, Werner laissa l'embarcation aborder doucement sur son aire. L'homme tendit les bras et reçut avec une joie infinie son fils contre son cœur. Le petit garçon lui serra le cou en répétant de façon saccadée
« Pardon, papa, pardon !»«
Plus jamais !»« Tu m'entends ? Ne dis plus jamais ça !» balbutia le père en embrassant l'enfant dans les cheveux. « Ce n'était pas de ta faute, absolument pas. C'est moi. Moi. Elle m'avait demandé à moi, de te surveiller. » Anjo ne l'écoutait plus. Il s'était retourné vers la bête et, se dégageant de l'emprise de son père, tendit la main vers le rebord de la paroi de chair. Lorsque la petite paume effleura le grand corps, un festival de couleurs rosées illumina l'entrée du tunnel. Werner avança la main, lui aussi. L'effet lumineux fut moins important, mais une chaleur surprenante lui enflamma la paume. Il en ressentit une joie profonde. Le port ouvert devant eux commença à se refermer. Il va partir, dit Anjo avec l'expression d'un intense regret. Comprenant qu'il fallait s'éloigner, Werner remit le moteur en route et rejoignit la plage. La quille avait à peine touché le fond que le père et le fils bondirent sur le sable, aussitôt rejoints par les jumelles, et regardèrent en direction du large. L'immense silhouette s'éloignait, filant plein ouest, prenant de la vitesse, de plus en plus de vitesse. Le sillage que l'animal traçait dans les flots était énorme, un remous formidable, preuve d'une puissance inégalée. Et soudain, il décolla. Des cris de stupeur jaillirent d'un peu partout sur la plage de Zabé. Chacun mettait la main au-dessus des yeux pour suivre la trace fulgurante que l'animal laissait derrière lui dans le crépuscule naissant. Lorsque la distorsion se produisit, Anjo se détacha de ses deux sœurs qui le serraient contre elle et, debout au bord des vagues, il dit simplement « La lumière. » Le ciel se déchira et l'immense animal disparut, emporté par la stase vers une destination connue de lui seul, à des années-lumière de là. « Il est parti ?» demanda Denis. « Il reviendra, » affirma Werner. Une scène s'imposa à sa mémoire. La première fois qu'il avait contemplé l'espace profond avec Marvina, ils étaient tout contre la baie vitrée du vaisseau d'Eutrance qui les emportait vers leur nouvelle vie. Leurs 3 enfants se serraient près d'elle. Ces 3 A, comme elle les appelait, ces 3 As, Anjo, Alexine et Adriel. Glissant sa main dans celle de son mari pour entrecroiser leurs doigts, elle avait dit « Autrefois, l'espace était le seul domaine des dieux. Maintenant, nous y sommes. Les abîmes du ciel sont à nous. Les abîmes du ciel nous protégeront.
les abîmes du ciel. Les abîmes.
Qu'est-ce que c'était ?
Murmura Naïk, brisant comme à regret le silence stupéfait de tous autour d'eux. Werner fit quelques pas et posa ses mains sur les épaules d'Anjo, toujours debout au ras de l'eau. Le petit garçon recula et, s'appuyant contre son père, leva un regard passionné vers cet homme dont il avait tant attendu le pardon. « C'était un... » commença l'enfant. « Un abîme, » dit son père, les yeux perdus dans la direction où l'immense animal venait de disparaître. « Le premier abîme d'Outre-mer venu nous protéger, » poursuivit Werner Magellan. « Et il y en aura d'autres. Beaucoup d'autres. » À l'horizon, émergeant des eaux, la première des deux lunes, qui n'avait pas encore de nom, dessina un point d'orgue à ses prémices d'avenir.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme vous le savez, le webmaster d'Utopod, Clément Bourgoin et moi-même travaillons actuellement sur un nouveau site. J'espère pouvoir vous annoncer sa mise en ligne d'ici fin 2009. Pour son élaboration, toutefois, Utopod a besoin de fonds, alors si vous désirez faire un petit geste, vous pouvez aller sur www.utopod.com, puis cliquer sur l'icône euro en bas de page pour effectuer un don. Je suis heureux d'annoncer que le nombre total de téléchargements et d'écoutes depuis le lancement de l'émission vient d'atteindre les 100 000. Pour la francophonie, je crois pouvoir dire que c'est un véritable record. À l'heure où des auteurs cultes comme Scott Sigler, écrivain podcasteur de SF et d'horreur américain, affichent des chiffres totaux de téléchargements de plus de 7 millions, nous faisons en Europe, et en francophonie en particulier, des premiers pas encore timides dans le domaine du podcasting, et plus particulièrement dans celui du podcasting culturel indépendant. Mais les choses bougent petit à petit et j'espère du fond du cœur que des émissions faites maison comme les Lionnes de l'ASF, Fantasy au petit déjeuner et Utopod électriseront les foules et sauront faire des émules. Je ne demanderai pas mieux que d'avoir un réseau de podcasteurs enthousiastes avec qui partager des idées, des suggestions, du matériel, des projets, etc. Alors rappelez-vous, si une idée de podcast vous traîne dans la tête mais que vous avez peur de vous lancer ou tout simplement si vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai heureux de partager ce que je sais avec vous et de vous motiver à démarrer l'aventure. Les moyens techniques nécessaires à la production et à la diffusion d'un podcast se popularisent. Il y a une foule d'outils gratuits de qualité à disposition sur la toile et l'exercice devient de plus en plus simple et abordable. Bref, à bon entendeur. Dernière info, je serai aux Utopiales, Festival international de science-fiction de Nantes, du 28 octobre au 1er novembre 2009. Si vous êtes dans le coin, venez me dire bonjour. Je vous donne rendez-vous le 21 novembre pour l'épisode 36 d'Utopod. En attendant, portez-vous bien et téléchargez beaucoup de podcasts. Bye bye !